يعني أخي دوس أنا بقولك دي بتبني حتى إنه قالينه ما يحسنوا بتشان تقولي à cause de nos fautes nous avons été exilés de notre de pays mais le Chidouche dit que je vous cite بتبني حتى إنه avant même d'avoir fauté vous dites حتى fauté nous avons fauté nous savons bien que nous sommes pleins de fautes mais ça ne peut pas suffire à expliquer notre destin il y a une finalité messianique à la dispersion des Juifs, parce qu'elle est la rédemption de la dispersion des goïms. Et puis, si nous sommes à la hauteur de notre tâche, alors comme disent les prophètes et depuis Moïse, c'est dans la bracha que nous serions mamlechet kohanim, si nous ne sommes pas à la hauteur, c'est dans la clara. Mais on n'y échappe pas à ce destin, j'en arrive maintenant à la question que vous avez posée sur collectif et individuel. Votre question, vous avez signalé un point extrêmement délicat. Je veux dire ceci. Tout se passe comme si des seuils irréversibles de l'accomplissement se sont réalisés. C'est irréversible. Que Israël est Israël, que ce soit le peuple juif qui est Israël, que Israël est bien le peuple de cette terre, qu'il y ait convergence de l'ensemble de l'humanité contre ce germe qui est en train de c'est l'histoire de Moïse, pas qui réapparaît. Moïse, c'est un berceau sur le Nil. Aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est un berceau à côté du Nil, mais avec les mêmes dangers. Et le Midrash raconte que lorsqu'on a apporté au Pharaon le berceau qu'on avait pris du Nil, alors il y avait trois grands sages à la cour du roi du Pharaon, et le Pharaon a dit qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant ? Qu'on va faire de cet enfant ? Alors ces trois grands sages, c'était Bilham, c'était Job et c'était Jéthro. Alors Bilham a répondu, tue-le, parce que ce qui va sortir de là, c'est la fin de ton empire. Ouais. C'est la fin du monde ancien. Bilham qui a dit tue-le est mort par l'épée, dit le Midrash. Jéthro a dit, si c'est le Créateur qui te l'a envoyé, cet enfant, tu ne pourras rien contre lui. Fais attention à cet enfant. Ça, c'est Jéthro. Job, sais-tu ? Job n'a rien dit. Et la Midrash dit, Job n'a rien dit. Et bien, il a été puni de son silence. Il a souffert. Et Job, Jéthro, ce n'est pas n'importe qui. C'est effectivement les trois modalités de la culture. Et lorsqu'il y a les trois à la fois, parce qu'on apprend une autre thèse de la Gemara, que Moïse était capable de la sagesse de Bilham, de la sagesse de Jéthro et de la sagesse de Job. Ça se trouve dans Bava Batra. Moshe Katab Sifro, Parashat Bilham, Sefer Iyod. Moïse, qui est capable de ces trois choses-là, peut recevoir la Torah. Job tout seul, c'est Job. Bilham tout seul, c'est Bilham. Jéthro tout seul, c'est Jéthro. Je vais essayer de vous l'identifier très rapidement. Bilham, c'est l'homme capable de religion. C'est l'ecclésiastique. Hein? Lorsqu'on dit franchement ce que c'est que ces gens-là, ils sont de la religion, pas de la Torah, alors c'est le sorcier, il parle du Dieu d'Israël, il fait semblant que le Dieu d'Israël lui parle à lui. C'est Mahazé Shalai, il prophétise au nom du Dieu d'Israël pour maudire Israël, ça c'est Bilham. Vous voyez le genre de bonhomme que c'est. Et puis Job, ma foi, je le comparerai, il faudrait que nous analysions ça pendant des heures, mais Job c'est vraiment... la prise de conscience existentialiste de la culture. L'homme qui est capable de se poser la question du destin individuel du juste. Job, c'est trop d'honneur que je lui fais, pas à Job, mais ça peut être un Jean-Paul Sartre cachère, quelque chose comme Gabriel Marcel à peu près, s'il était un peu plus. Mais Job était sincèrement Job. Enfin, Job était sincèrement Job. C'était pas un de ces hommes littéraires qui vous enseignent, et ils vivent ça littérairement en tout cas, mais qui vous enseignent que le monde est absurde et qui cependant, à la fin du mois, reçoivent leur chèque. Ils sont quand même à l'abri de quelque chose qui n'est pas absurde. Vous comprenez ce que je veux dire. L'existentialisme contemporain, à moins qu'il ne mène à la folie, n'est pas toujours très sincère. C'est par là qu'on voit où les existentialistes sont sincères, quand ils deviennent fous. Mais là, c'est trop tard. En tout cas, Jéthro, c'est ce beau-père pour lequel nous avons cette tendresse qui nous coûte si cher, parce que Jéthro, c'est l'homme qui se préoccupe de la justice, non pas dans les rapports entre Dieu et l'homme, ça c'est Bilham, ou dans les rapports entre l'homme et l'identité humaine, ça c'est Job, mais dans les rapports sociaux. Ce que Jéthro a apporté dans la Torah, si vous voulez, en tant que beau-père de Moïse, mais surtout en tant que co-sage, si vous voulez, c'est l'organisation de la société. Et d'ailleurs, cette Gemara que je vous citais dit, et Jéthro, qui a dit la vérité à propos de Moïse, eh bien, la récompense, c'est que ses descendants siégeront à la Knesset. C'est écrit comme ça dans le livre. Effectivement, Jéthro, c'est cet état de complaisance que nous avons, entre Job et Bilham, que nous n'aimons pas tellement, finalement, c'est la complaisance que nous avons pour les socialistes. C'est ça. Enfin, ces hommes qui sont préoccupés du sort de la justice au niveau de la société. Et il y a des descendants d'Hétro à la Knesset. Il y a beaucoup de socialistes à la Knesset. Voilà, en tout cas, à propos de quoi ? Je parlais de cela, oui, pour collectif.
Collectif.
Alors, voyez-vous, là, je vous dis au point de vue. Ouais, au point de vue du destin collectif d'Israël, c'est irréversible. Et c'est là que je vous disais, nous avons déjà le berceau à côté du Nil. Et jusqu'à présent, il n'y a personne qui a joué le rôle de la fille du pharaon. Voilà. Personne qui a joué le rôle de la fille du pharaon. Et la sœur de Moïse est là, voilà, la seule femme de laquelle on peut dire qu'elle est là en train de veiller sur ce berceau, ben, c'est notre président du conseil. C'est pas du tout Madame Nasser ou Madame Pompidou. Eh bien, à l'échelle individuelle, alors voilà, c'est le problème très difficile de répartition des responsabilités lorsqu'il y a une tâche collective à l'échelle du destin individuel. Le fait que nous soyons assurés que, je vais le dire en raccourci, que le Messie viendra, ça y est, en train de venir. Il est en train de venir. Eh bien, c'est en train de s'accomplir, enfin, c'est ce qui se passe. Le fait que nous soyons assurés qu'il viendra et qu'il viendra pour Israël et que c'est gagné dans le principe, ça ne donne le droit à personne de ne pas faire ce qu'il a à faire. Que, vous comprenez, à l'échelle individuelle, eh bien, personne n'a à compter sur les autres. Ça, c'est au niveau du problème de responsabilité. Mais il y a un niveau beaucoup plus grave, et nous revenons à la question du rachat. C'est dit, Ma'auda Zot Lachem, Veilou Hayashab, Loréa Nigal. La question qui m'angoisse, si vous voulez, en tant. Pas en tant que professeur ou en tant qu'enseignant, mais en tant qu'ancien des mouvements de jeunesse, en tant que membre de la communauté militante ou en tant qu'éducateur, si vous voulez, c'est une chose que les gens de mon genre, si vous voulez, ont perçu de façon aiguë, c'est cette espèce d'arbitraire quand un tri se fait, pourquoi celui-là et pas un autre ? Vous comprenez ? Qui en sera ? Quel prix à payer ? Quel déchet à payer ? Et qui ? Pourquoi dans la même famille, celui-là est pas son frère ? Celui-là est pas un autre, comme disent d'ailleurs les prophètes. J'en prendrai deux par ville et trois par famille. Ou un par ville et deux par famille. Et vous voyez, c'est ça qui nous angoisse. Hein? À partir du moment où nous commencerions à provoquer, dans le sens de Hatpetahlo, à provoquer le tri, parce qu'il faut bien que le tri se fasse, alors on est devant, en présence d'un problème de responsabilité énorme, terrifiant. Provoquer le tri, c'est en fin de compte risquer d'être responsable que un tel en sera, un tel n'en sera pas, parce que ce n'est pas peut-être pour lui le moment dû de passer à travers le tamis. Hein? Peut-être que si le tri avait été provoqué 3 mois après ou 6 mois avant, il serait passé à travers les trous du tamis, mais ce jour-là pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je me souviens, les anciens d'Orsay se souviennent certainement, chaque fois que nous étudions cette Mishnah de Vesheno Yodea Lishol At Petahlo, je disais chaque fois, j'avais déjà 15 ans, plus de 15 ans, 20 ans d'ailleurs. Je disais toujours, mais voilà, à chaque fois que nous nous demandons, mais est-ce qu'il faut les inquiéter, ces élèves qui sont là, et d'ailleurs pourquoi il n'y a pas d'autres, hein? Est-ce qu'il faut leur poser la question, les traumatiser, etc. Et bien je disais, mais voilà, la Gaga a décidé. Les chémoyeux de Harishol, Atpetahlo, on est couvert. La Gaga nous a dit, on est couvert. Mais ne croyez pas que c'est un faux scrupule, un faux souci. C'est un souci très grave d'avoir à poser le problème de la Torah à quelqu'un, ou le problème du destin d'Israël à quelqu'un, ça engage. Ça, vous comprenez, c'est pas simple comme décision à prendre. Et ben voilà, il faut le faire. Il faut le faire, et puis il y aurait de la casse, bien sûr, un tri, il y a toujours de la casse. Mais en tout cas, je suis plus à l'aise de vous dire ça comme Israélien que j'aurais pu l'être de vous dire ça comme éducateur dans la Gola, vous comprenez. Bien, et maintenant, arrivons à la dernière question, qui est la relation avec les chrétiens et la relation avec les musulmans. Alors je crois, c'est paracha mifne asma, ça c'est un problème énorme. Enfin je crois très rapidement que actuellement nous sommes en conflit avec l'islam, c'est bien évident. Voilà. C'est-à-dire dans le front de notre conflit avec le monde extérieur, il y a trois fronts. Il y a le front chrétien, Bon, nous sommes en pour parler. C'est vrai, nous sommes en pour parler. Ça avance pas vite. Enfin, depuis que Jean XXIII est mort, il y a du retard à l'allumage. Il est possible, et je reviendrai sur ce point, il est possible que ça s'éclaire un jour. Le front avec l'islam, c'est le Sahel qui s'en occupe. Et je dois vous dire que nous avons tenté désespérément, tant à Paris, qu'il y a un certain rôle à jouer, parce que Paris, enfin je veux dire la France, est en relation avec, avec le monde de l'islam. Enfin, en tout cas pour nous les Algériens, nous avons vécu, peut-être seuls les Libanais ont une expérience assez analogue, peut-être pas vraiment analogue, enfin nous avons vécu une tentative qui aurait pu être le dialogue à trois entre chrétiens, juifs et musulmans. Enfin, ça a raté pour les histoires que vous savez, mais enfin, ça aurait pu se faire. Et à Paris, il y a eu ce report du problème, et nous avons essayé désespérément, je dois ici citer le nom du père Riquet, qui a été vraiment un hassid de Moutarolam dans ces problèmes, vraiment tzadik. Et nous n'avons pas pu arriver à avoir comme interlocuteur un théologien musulman qui parle. Voilà, tout simplement. Et je crois, je vous dis ça après, stupéfait moi-même. Peut-être que ça... Mais nous avons parlé avec des gens qui vivent leur islam, mais qui n'ont strictement rien à dire, qui ne comprennent rien à rien au rapport avec Israël, sinon de nous dire très, très amicalement, chaque fois que nous essayons d'arriver à mettre sur pied un colloque public, nous avons essayé une fois à la Sorbonne, on a parlé de tout sauf de l'essentiel, hein. Qu'est-ce que tu veux, alors, tu veux ma mort? Si jamais on apprend que je parle à un juif, que tu veux me tuer, et pourtant tu es un homme pieux. Enfin, des choses de ce genre. Mais en tout cas, c'est pourquoi je vous dis, pour le moment, le front avec les pays islamiques, et vous comprenez que je suis en désaccord absolu avec un excellent ami Chouraki, qui a fait de la démagogie dans... Je vous dis, c'est vraiment, nous sommes amis plus qu'intimes. Mais je ne sais pas si vous avez lu la lettre à un ami arabe. Enfin, c'est la démagogie pure et simple, c'est pas, ça n'existe pas, ça tient pas debout, tu vois. C'est pas si simple, d'une part, c'est pas si simple que ça, et puis on n'a pas le droit de faire la démagogie littéraire lorsque le sort d'être concret et vivant est en jeu. Ben, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Que Chouraki ait des amis arabes, c'est vrai, j'en ai aussi, tu vois. J'en ai aussi, je me souviens d'ailleurs, quand j'étais en Algérie, c'était au moment de l'indépendance de la Tunisie. Un de mes amis du lycée d'Oran, parce que Dieu est son âme à ce lycée-là, qui m'a rencontré dans la rue, et qui me dit, bon, alors toi, tu as choisi la France. Et d'où tu sais que j'ai choisi la France? Il me dit, mais tu es intelligent, quoi. Et après, très amicalement, il me dit, d'ailleurs, je te conseille de partir, parce que tout ami que nous sommes, il vaut mieux que tu sois là-bas qu'ici quand ça arrivera. Vous comprenez, c'est pourquoi je vous dis, à la limite, quelles que soient les exceptions, et elles existent, que c'est dangereux de faire de la démagogie avec des problèmes de ce genre, parce que c'est faux, parce que c'est faux. Alors en tout cas, en ce qui concerne le front islamique, c'est le Sahel qui s'en occupe. Il y a un troisième front, et ce front est très dégarni. C'est le front avec l'idéologie marxiste. C'est très dégarni. Je connais très peu de marxistes juifs, et se voulant juifs, enfin de marxistes... sioniste, si vous voulez, à la limite, ça existe, tous les paradoxes sont possibles, capable de formuler de façon cohérente une formulation par rapport au marxisme, disons, officiel. Et au fond, c'est, je crois, un aspect du problème auquel nous devons prêter énormément d'attention. Parce, pas tellement pour avoir à convaincre les Russes ou les Yougoslaves. Finalement, ils ont leur jeu de grande puissance. Ils savent ce qu'ils font d'après leur politique de grande puissance, et vous pensez bien que les dés sont pipés dès qu'on parle d'idéologie. En réalité, il y a politique, et au niveau d'intérêt de puissance. Mais surtout, pour pouvoir parler à l'enfant juif qui est dans cette problématique marxiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, nous sommes très démunis. Je me souviens quand j'étais président du EJF, plaignez-moi, ça m'est arrivé aussi. Eh bien, tu t'en souviens, une de nos plus grandes gloires, c'était quand on arrivait à transformer en MAPAM un communiste français. Quand on arrivait à en faire un Al-Shabar al-Saïd, on disait Chahiyan. Ça vous a l'air paradoxal. Ça a l'air d'être paradoxal. Effectivement, des moments de cette époque. Parce qu'effectivement, c'est très différent. Après tout, chacun a son option et son idéologie individuelle. C'était très très différent dans la maison et dehors de la maison. Vous comprenez? Bon, un Mapam, c'est un marxiste. En général, ils sont d'ailleurs sympathiques, si vous voulez savoir. Ça a été pour moi l'occasion d'amitié importante, féconde et efficace. Et si vous saviez tout ce qu'il y a pu avoir pour la vie juive d'Atique en Europe, en Europe d'ailleurs, en tout cas en France, grâce à des amitiés de ce genre à l'UEJF avec des Mapam, vous n'en aurez aucune idée. Quand vous saurez comment l'histoire s'écrit, vous seriez effaré. Mais en tout cas, tu vois quoi je veux dire.
Tout à fait.
Eh bien, en tout cas, je me souviens toujours de cette réaction de marxistes de l'UEC, de l'Union des étudiants communistes, qui me disait, toi je t'en veux, parce que depuis que je te connais, je ne peux plus être marxiste comme les autres. Et alors, bon, dans le meilleur des cas, il devenait un chômeur absent. Mais c'est une très grande victoire. Bon, alors voilà, grosso modo, de quoi nous avions à part.